France Inter.
Bonjour, aujourd'hui on va parler de son père. Le 15 août 1789, 20 cavaliers des dragons de la reine débarquent à Villers-Cotterêts. L'un d'eux retient l'attention de la foule.
Il était,
écrira Alexandre Dumas,
un des plus beaux jeunes hommes qu'on pût voir. Il avait le teint brun, les yeux marrons et veloutés, et malgré sa taille de 5 pieds 9 pouces, une main et un pied de femme.
La fille du propriétaire de l'hôtel de l'Écu obtient de son père qu'il accueille le beau cavalier dont elle est tombée amoureuse. Quand les deux jeunes gens annoncent leur intention de se marier, le père accepte de bonne grâce.
Papa vous adore.
Étonnante tolérance en cette fin d'un 18e siècle esclavagiste. Car le beau dragon était le fils d'une esclave de Saint-Domingue.
C'est vrai que vous avez fière allure quand vous défilez avec les autres dragons dans les rues. Vos camarades n'ont pas votre couleur de peau.
Il y a d'autres hommes de couleur restés à la caserne. 3 noirs sur les 92 soldats de mon groupe.
Son père, le marquis David La Payeterie, était installé comme planteur dans l'île. Pour payer son retour en France, il avait vendu 2 enfants qu'il avait eus avec sa servante, Cézette Dumas, et conservé auprès de lui le 3e, Alexandre. Engagé dans l'armée comme simple soldat, le jeune métis avait pris le nom de sa mère, revanche posthume de l'ancienne esclave. Ainsi était né le premier des Alexandre Dumas. Le célèbre chevalier de Saint-Georges, lui aussi originaire des Caraïbes, crée la Légion franche des Américains et propose à Dumas une sous-lieutenance. En 1793, il devient général dans les armées de la République. Il s'illustre partout par sa bravoure, il rejoint Bonaparte en Italie et s'embarque pour la campagne d'Égypte, expédition glorieuse et absurde dans laquelle on voit des gamins de 20 ans sous les ordres d'un chef de 28 accrocher des cocardes tricolores à la tête de leur chameau.
« Mon père était créole »,
écrira Alexandre Dumas.
« C'est-à-dire plein de nonchalance, d'impétuosité et d'inconstance. »
Mais il n'oublie pas ce qu'il doit à la Révolution. Quand il sent Napoléon percer sous Bonaparte, il se révolte.
Frédéric Régent, historien.
Il déclare qu'il est pour la République et qu'il a le sentiment que Napoléon Bonaparte est là pour mettre en place une dictature.
Le futur empereur le chasse et ne lui pardonnera jamais. Le général s'embarque pour la France. Son petit bateau fait naufrage. Prisonnier du royaume de Naples, il est jeté en prison, maltraité et rentrera brisé en 1801. Son fils, notre Alexandre, né le 24 juillet 1802, est le fruit tardif de ce retour.
Mon cher Brune, je t'annonce avec joie que ma femme est accouchée hier matin d'un gros garçon qui pèse 9 livres et qui a 18 pouces de long. Tu vois que s'il continue à grandir à l'extérieur comme il l'a fait à l'intérieur, il promet d'atteindre une belle taille.
Le général mourra 4 ans plus tard. La perte de ce père sera toujours une grande souffrance pour l'écrivain. Je suis sans doute déformé par ma propre enfance orpheline, mais je me demande si cette absence n'a pas plutôt été une chance. Un tel père aurait dominé, formaté, stérilisé peut-être le jeune Alexandre. Sa disparition précoce a fait don à l'écrivain de 2 trésors, une totale liberté et des souvenirs. Souvenirs des temps héroïques de la Révolution et de l'Empire, souvenirs surtout de la force herculéenne de son père. En s'accrochant à une poutre, il soulevait un cheval en le serrant entre ses jambes.
On vient défier le puissant Porto, ça fait le malin avec son épée.
Puissant qui ?
Me dis pas que t'as jamais entendu parler de moi.
Difficile de ne pas y voir le modèle du futur Porthos, le seul mousquetaire que Dumas pleurera d'avoir fait mourir.